Probablement la couleur que vous avez retenue est le jaune, parce qu'à la fin de cette année, on a eu beaucoup de mouvements qu'on a appelés des mouvements citoyens. Je ne sais pas à quel point vous avez suivi les choses, ni est-ce que vous avez vibré au rythme de tout ce qui se passait. Combien vous avez été immergé ou absorbé dans tout ce qui s'est passé. Est-ce que votre slogan a été nous voulons renverser le gouvernement? Est-ce que ça a été le pouvoir d'achat? Il semble que ce soit ça la grande question. Mais dans tous ces mouvements, j'ai retenu une chose. Il y a une revendication qui a été faite et qui est souvent montré avec trois lettres hérissées, et c'est le référendum d'initiative citoyen. Les citoyens veulent pouvoir s'exprimer, vivre en tant que véritable citoyen, prendre vraiment leur responsabilité de citoyen. Eh bien, savez-vous que la Bible aussi nous appelle à vivre en tant que citoyen, mais citoyen d'une patrie particulière, citoyen des cieux. Et je voudrais qu'on regarde un peu ce passage dans Philippiens. Alors je vais sauter, je saute un peu parce que on était au chapitre 2 jusque-là, mais je voudrais pour aujourd'hui considérer un peu le chapitre 3 de Philippiens. Et nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Chapitre 3 de Philippiens, verset 17 jusqu'au verset 21. La parole de Dieu nous dit ceci, nous l'écoutons. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai déjà parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, quand tout semble bouger autour de nous, quand le sol semble se dérober sous nos pieds, il est important de se rappeler quelques réalité. Et l'apôtre Paul, ici, soulève, dans ce verset 20 que nous avons lu, une réalité à laquelle le croyant doit s'accrocher. C'est sa citoyenneté. Sa citoyenneté céleste, ici. Donc, le titre de notre méditation, de notre message ce matin, c'est « Vivre en citoyen du ciel » ou « Vivre en citoyen des cieux ». Certainement, on avait déjà lu, vous vous rappelez, chapitre 1, verset 27, l'apôtre Paul avait déjà encouragé les Philippiens à mener une vie digne de l'Évangile. C'était le même sens. Ils avaient appelé à vivre en tant que citoyens des cieux et de manifester ainsi leur unité, si vous lisez depuis le chapitre 1, verset 27, de manifester leur unité en tant qu'enfants de Dieu, en tant que citoyens des cieux. Mais ici, je voudrais voir quelque autre chose dans ces passages que nous avons lus et quelques caractéristiques, quelques traits distinctifs de ceux qui doivent vivre en tant que citoyens des cieux. Alors, je vais le prendre dans un ordre, ce n'est pas tellement celui que j'aurais forcément souhaité, mais si je regarde le verset 17 ici, l'apôtre Paul dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. » Et après, il les décrit et il dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils pensent aux choses de la terre. Autrement dit, leur citoyenneté est sur la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux. Et donc, le citoyen du ciel doit saisir premièrement la réalité de sa citoyenneté. Déjà, il faut se saisir de la réalité de sa citoyenneté. Philippe était une petite colonie romaine. Acte chapitre 16, verset 12 nous le dit. Et c'est en tant que colonie que ses habitants, en tant que colonie, les habitants de Philippe jouissaient des droits romains. C'est comme les colonies, les pays où on a été les colonies françaises, comme aux Antilles, puis dans d'autres, eh bien, on vit avec le droit français. Et donc, c'était une petite on appelait ça une petite colonie romaine à l'étranger. Et donc, tout ressemblait à Rome. Hein. On était à Philippe, on avait l'impression d'être à Rome, parce que toutes les mêmes lois qui régissaient cette contrée. On parlait le latin, la loi romaine contrôlait l'administration locale, les impôts. Et il y avait de nombreux aspects de la vie publique qui se déroulaient comme à Rome. Et des avantages qui étaient les mêmes que ceux qu'on avait ici à Rome. Et donc les citoyens de Philippe pouvaient être fiers de leur citoyenneté. Hein, ça me rappelle une fois avoir entendu un vieux humoriste dire « Moi, je suis français hein. ». Et c'est une manière de dire « Voilà, je suis pas un étranger et je bénéficie de tout ce que la France apporte ici. » Et les gens de Philippe pouvaient être comme ça. « Moi, je suis romain. » Et Paul dit « N'oubliez pas que nous sommes pas romains, nous sommes romains peut-être temporairement, mais nous sommes surtout citoyens des cieux. Et vous devez intégrer cette réalité. Il est important de se rappeler ce que l'on est. Notre cité à nous, dit Paul, Philippiens chapitre 3, verset 20, est dans les cieux. Et il est aussi facile pour nous aujourd'hui de considérer avec orgueil telle ou telle facilité que peut nous donner le fait d'habiter quelque part, d'être né quelque part. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes citoyens des cieux. Surtout quand les choses commencent à bouger. Et puis qu'on a l'impression que certains profitent des avantages que nous aurions dû avoir. Et j'entends parfois des enfants de Dieu qui parlent comme ça. Oui, mais les gens, ils viennent de l'extérieur et puis ils profitent des mêmes choses. Et on se comporte, en citoyen terrestre, égoïste. Et on oublie que notre citoyenneté est dans les cieux. Donc n'oubliez pas que nous sommes, la Bible dit, des étrangers et des voyageurs sur la terre. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Et les véritables enfants de Dieu attendent autre chose, n'attendent rien de la cité ici, ils attendent tout de la cité qui est à venir. Abraham attendait la cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et dans Hébreux 13, nous lisons ceci, il dit « Nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Et donc le chrétien doit être conscient qu'il n'a pas de carte de résident, de titre de séjour permanent ici. Il n'appartient pas à cette cité, même s'il y appartient d'une certaine manière, mais sa cité réelle est dans les cieux. Il est citoyen français, américain ou indien, mais tout cela c'est temporel, c'est temporaire. Il est, s'il est un enfant de Dieu, eh bien citoyen des cieux. Et la Bible dit, ainsi donc, vous n'êtes plus, en parlant spirituellement maintenant, des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des citoyens, concitoyens des saints, et gens de la maison de Dieu. Et donc il est important, je pense, pour nous de considérer vraiment ce que nous sommes. Quand on est un chrétien, on doit savoir quelle patrie on appartient, d'où on vient, où est notre cité. Parce que c'est ça qui va gérer notre vie. Quand vous voyez des étrangers, qu'on appelle des étrangers, des gens qui sont d'autres pays, vivre en France, souvent ils vivent à la manière du pays. Ils sont là, mais leur mode de vie, donc on a des communautés ici, indiennes et d'autres, etc. Le mode de vie est quand même vraiment dicté par ce qu'ils sont, par d'où ils viennent. parce que c'est leur cité. Et ils sont fiers, hein. Ils disent, je suis fier d'être ceci, fier d'être antillais, fier d'être indien, fier d'être américain, fier d'être français, etc. Je parle avec un frère ce week-end qui a la double nationalité. Et il m'a dit, je suis fier d'être les deux. Hein. Et il aime les deux. Hein. Et c'est normal, hein, c'est notre citoyenneté. Et on vit avec les deux. Hein. Le chrétien, donc, ne doit pas oublier d'où il est. L'apôtre Paul, pour les encourager ici, dit, mais nous sommes citoyens des cieux. Et que fait donc un citoyen du ciel? Eh bien, le citoyen du ciel se distingue par le fait qu'il, ça c'est la première chose que je souligne ici, qu'il imite dans sa vie de bon modèle. Le citoyen du ciel se distingue par le fait qu'il imite dans sa vie de bon modèle. Soyez, verset 17, tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Parce que nous, notre cité est dans les cieux. Il dit, ne vous attardez pas à regarder, à considérer n'importe quoi, mais portez vraiment les regards sur ceux qui marchent comme nous et imitez-nous, dit Paul. Imitez-moi et imitez ceux qui marchent comme moi. Et on pourrait s'exclamer, mais c'est pas un peu orgueilleux ça quand même? N'est-ce pas Christ qu'on devrait imiter? Les hommes, ils sont faillibles, ils sont imparfaits. Alors, est-ce qu'on peut vraiment imiter des êtres humains? N'est-ce pas orgueilleux de l'apôtre Paul de dire « imitez-moi » ici? Eh bien, Paul ne le dit pas avec orgueil. D'abord, c'est un commandement de la parole de Dieu, et puis c'est une parole inspirée, tout aussi inspirée que ce qui est dit en Philippiens chapitre 2, verset 5 et la suite, où on voit l'exaltation, l'abaissement et l'exaltation de Christ, hein. Et à plusieurs endroits, en plus dans l'Écriture, nous trouvons cette exhortation de l'apôtre Paul où il appelle les croyants à l'imiter. Alors, il ne se considère pas comme parfait. Dans la même épître, il dit qu'il n'a pas encore atteint le but, mais il court pour tâcher de le saisir. Mais il appelle néanmoins les croyants, et puis de Philippe, et nous aussi, à l'imiter. Et c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui le pousse à écrire ces choses. Dieu, dans sa grâce, a prévu, bien sûr, des croyants, des pécheurs sauvés par grâce, pour nous servir d'exemple dans notre vie, dans notre marche vers la sanctification. Certes, Jésus-Christ est le modèle parfait, mais dans la parole, Dieu aussi a prévu, dans sa sagesse, à utiliser des hommes pour qu'ils soient aussi des modèles que nous puissions observer. Le prédicateur Adolphe Monod dit ceci, il dit « Le type parfait, nous l'avons en Jésus-Christ et en lui seul. » Je trouve que c'est très bien comment il dit cela. Il dit « Mais Dieu s'accommode à un besoin de notre faiblesse, en nous montrant aussi des types imparfaits qui, tout en demeurant bien en arrière du maître, marchent fort en avant de nous. » Et ça, j'aime bien ça. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, oui, ils sont bien en deçà de Christ dans leur marche chrétienne, mais ils sont bien au-delà de nous. Hein. Et c'est bien de dire, moi, mon modèle, c'est Christ. D'accord? Mais avant d'arriver là, tu peux passer par l'intermédiaire. Et les hommes de foi que Dieu place devant nous sont aussi des modèles que nous devons avoir. Et le citoyen du ciel doit être animé par ce désir d'imiter ceux qui marchent fidèlement dans le Seigneur. Il doit être animé par cette volonté de vivre comme ceux qui marchent fidèlement dans le Seigneur. Et plusieurs endroits, on ne pourra pas lire tous, mais 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16, l'apôtre Paul dit « Je vous en conjure, soyez donc mes imitateurs. » 1 Corinthiens 11, 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Lui-même, il imite Christ, mais il dit voilà, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Donc il ne s'agit pas ici d'orgueil. Mais en quoi est-ce que les Philippiens sont-ils appelés à imiter Paul et ceux qui marchent en accord avec lui. Bien entendu, il ne s'agit pas de recopier Paul, hein, de recopier ses gestes, sa manière de marcher, sa manière de s'asseoir, hein. On voit beaucoup de jeunes qui marchent dans la rue, hein. Ils copient un modèle qu'ils ont vu quelque part, ou alors ils se coiffent. Hein. C'est étrange, hein, il y a beaucoup de gens qui se coiffent souvent de la même manière. Hein. Alors, il y a bien quelqu'un qui a lancé quelque chose une fois. Hein. Ça, c'est la copie. Hein. Je vous avais donné l'exemple une fois d'un jeune qui était à l'institut, puis qui avait laissé sa barbe pousser, mais alors, on l'avait connu toujours bien rasé, puis il est revenu avec une grosse barbe. Et on s'est demandé pourquoi, et puis finalement, on a appris qu'il y avait un prof qui l'admirait à l'institut, et le prof avait une grande barbe. Alors lui aussi, il a laissé pousser sa barbe. Parfois, on s'assoit de la même manière, parfois on parle de la même manière, et inconsciemment, on fait les mêmes gestes, parce qu'il y a des gens qu'on admire. C'est pas ça que l'apôtre Paul demande de faire ici. Il ne demande pas de l'admirer, il demande de l'imiter dans sa vie. Philippiens chapitre 4 verset 9 explique ce qu'il dit. Il dit « Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. » C'est-à-dire ici, ce qu'il faut imiter, c'est sa manière de vivre l'évangile, c'est sa piété, c'est sa réaction face aux souffrances, comment il utilise la parole dans sa vie, comment il la pratique, il l'applique dans sa vie. Il y a des choses que nous pouvons apprendre de ceux qui sont plus en avant que nous, lorsque nous les prenons ainsi pour modèle. L'apôtre Paul encourageait Timothée en lui disant, en lui rappelant des éléments de sa propre vie chrétienne. Hein. Il disait « Pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persions, mes souffrances. » Et la réaction d'un homme de Dieu dans ces circonstances-là, c'est quelque chose qui s'observe et quelque chose que l'on doit même imiter lorsque c'est vécu conformément à la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, en 2 Thessaloniciens 3, on ne va pas lire ça, 6, 9, il indique même comment il faut limité dans le domaine de l'éthique du travail. Il dit, j'avais le droit de vivre de l'évangile et d'être supporté par l'évangile. Mais il dit, mais ces mains ont travaillé pour pourvoir à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Il dit, je l'ai fait à dessein, je l'ai fait afin que vous nous imitiez et afin d'être un modèle pour vous, ainsi que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, pour inciter les gens à travailler. Donc, il vivait même avec l'objectif d'être un modèle aussi pour les autres. Mais l'Écriture nous appelle ailleurs, hein, aussi, si vous lisez, à imiter les hommes de foi. Nous désirons, dit un passage, que chacun de vous montre le même zèle à conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la persévérance, héritent des promesses. Vous imitiez ceux qui, par la persévérance, héritent des promesses. C'est Hébreux 6, versets 11 et 12, et on trouve aussi en Hébreux 13. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole, considérez quelle a été leur fin, la fin de leur vie, et imitez leur foi. Donc nous sommes exhortés, nous sommes commandés même, à imiter ceux qui marchent sur les traces du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui obéissent, ceux qui vivent une véritable vie de piété. Ici. Une autre chose que l'on peut voir donc, concernant le citoyen du ciel, eh bien, c'est que le citoyen du ciel se distingue par ses affections. Le citoyen du ciel se distingue par ses affections, je voudrais même dire ses affections présentes. Ici, l'apôtre Paul ne le dit pas directement, mais on pourrait penser qu'il le dit indirectement. Il dit, verset 18, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, il dit par contraste, donc, en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition, parle de la fin de ces personnes-là. Il parle, il dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre, ce sont des idolâtres qui s'adonnent aux affections de la chair. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Autrement dit, leur affection est terrestre. Leur affection, c'est dans les choses terrestres, dans les choses matérielles, dans les appétits. C'est ce qu'ils cherchent à satisfaire. Et donc, on pourrait dire que il dit, mais nous sommes citoyens des cieux. Autrement dit, nous, ce n'est pas ainsi que nous vivons. Ce ne sont pas là nos affections. Le citoyen du ciel se distingue par ses affections présentes. À quoi est-ce que le cœur est attaché? L'Église, dit-il, comporte en son sein probablement des personnes qui ont perverti l'Évangile par leur manière de vivre. Et donc, Paul met en avant que les affections du cœur pour mesurer la réalité de la profession de la bouche. Ces personnes dont il parle n'étaient pas des personnes qui étaient complètement à l'extérieur. Hein, sans quoi, ils ne seraient pas en train de parler aux Philippiens, aux gens qui sont dans le monde, qui vivent dans le monde. Non, il parle de personnes qu'ils peuvent avoir sous les yeux et il y a un risque qu'ils les prennent comme modèle. C'est ce qu'il est en train de faire ici. Il dit, prenez pour modèle ceux-là parce qu'il y en a d'autres qui, etc. Donc ça veut dire que ces gens sont dans la proximité, peut-être même dans l'église. Et ils ont des affections purement terrestres. Ils n'ont pas des affections de véritables citoyens du ciel. D'ailleurs, l'apôtre Paul les qualifie par un mot. Il dit, ce sont des ennemis de la croix de Christ. Des ennemis de la croix de Christ. Et je vous fais remarquer comment est-ce que l'apôtre Paul décrit les ennemis de la croix de Christ. On pourrait s'attendre à ce qu'ils disent, voilà, ils sont contre la doctrine du salut par grâce au moyen de la foi. Ils pourraient dire, voilà, ils sont contre un autre point de doctrine. Ils ne croient pas ceci. Ils ne parlent pas du tout de ce qu'ils croient. Vous avez vu, il dit que ce sont des ennemis de la croix et il les décrit par leur vie. Il les décrit par leur vie, par leurs affections. Il dit, d'abord, il signale leur sort. Ils ont pour fin la perdition, mais ils ont pour Dieu leur ventre. Ce sont des idolâtres, ce qu'il est en train de dire. Ils ne vivent pas d'une manière conforme à la croix de Christ. Et c'est sidérant, je trouve, parce que ça veut dire qu'on peut être au sein d'une assemblée et vivre, voilà, pleinement pour ce monde que pour ce monde, et croire tout ce que le chrétien croit, et être un ennemi de la croix de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Les ennemis de la croix de Christ, ce ne sont pas ceux qui crient fort et haut, nous sommes contre Jésus-Christ, mais ce sont ceux qui professent même être pour Jésus-Christ, mais qui par leur vie renient ce qu'est une véritable vie de croyant. Donc le citoyen du ciel, c'est celui qui se distingue par les affections de son cœur. Est-ce qu'il est attaché aux choses d'en haut, comme l'épître de Paul dit aux Colossiens? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Celui qui est citoyen du ciel cherche et s'attache aux choses célestes. Et si ses affections sont purement terrestres, et constamment terrestres, eh bien, Paul dit ici que ces personnes-là sont des ennemis de la croix de Christ. Jésus disait, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. D'accord. Elle dit, c'est pas la profession verbale, mais rien. On peut avoir une belle orthodoxie, on peut croire, être d'accord avec tous les points de doctrine biblique, mais la parole nous dit que ce qui mesure vraiment La réalité de la foi, c'est la vie, en fait. Ce sont les affections du cœur. C'est là qu'on va pouvoir mesurer de manière plus certaine et plus fiable où on en est avec, avec le Seigneur. Paul parlait à Tite et il disait qu'il y a des gens qui font profession de connaître Dieu, mais ils renient ce qui est, mais ils le renient par leurs œuvres. Vous voyez, encore une fois, par leur vie, par leur comportement ici. Et donc, le citoyen du ciel, important à retenir pour nous, se distingue non par la profession verbale, mais par sa profession, par ses affections dans la vie de tous les jours. À quoi est-ce que je suis attaché? Est-ce que je suis attaché à la parole de Dieu? Est-ce que je suis attaché à obéir à la parole de Dieu, au commandement de Dieu? Est-ce que je suis prêt à enfreindre le commandement de Dieu pour satisfaire ce que mon cœur désire? C'est, toutes ces choses-là sont importantes à considérer pour qui professe être citoyen du ciel. Ensuite, on pourrait dire aussi que le citoyen du ciel se distingue par son attente active du retour de Christ. Ça, l'apôtre Paul le dit clairement, verset 20, il dit « Nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Je ne sais pas ce que vous attendez pour cette année 2019. Mais j'ai regardé un peu, je fais une petite recherche sur Internet, qu'attendent les Français. Voilà, hein. Alors, on va prendre la citoyenneté temporaire. Et il semble que la grande attente pour 2019 soit le pouvoir d'achat. Hein? Ce qui était écrit en tout cas dans le sondage Odoxa, je crois. Hein? Les Français attendent le pouvoir d'achat. Mais en tant que chrétien, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Le citoyen du ciel, le chrétien authentique, nous dit l'apôtre Paul ici, se distingue par son attente active du retour de Christ. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'on a des projets temporaires qu'on aimerait bien voir se réaliser avant. Parfois, il y a des gens qui disent « Oui, je veux bien que le Seigneur revienne, mais j'espère que je vais me marier avant. » Et moi, j'ai dit « Seigneur, j'espère que je vais voir mes petits-enfants. » Ah, oui, on est un peu comme ça, n'est-ce pas? On voudrait, mais quand même, on aimerait bien qu'il y ait des projets temporels qui se réalisent. Mais l'apôtre Paul dit que le citoyen du ciel, c'est quelqu'un qui attend de manière active le retour de Jésus-Christ. Il attend assidûment, ça veut dire. Il attend impatiemment. Et d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, le peuple de Dieu est toujours un peuple qui attend. Enfin, si vous avez fait attention à ça, hein, le peuple de Dieu est un peuple qui est décrit comme un peuple qui attend. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'attente du Messie, et puis que ce soit donc dans l'Ancienne Alliance ou sous la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu attend. Le chrétien attend et doit attendre le retour de Jésus-Christ. Je lisais un commentateur qui disait que le Nouveau Testament fait dans tous les livres référence au retour de Christ. Sauf dans quelques livres, très peu, deux petites épîtres, par exemple 2 Jean et 3 Jean, et puis Philémon, pas, et puis probablement dans Galates. Sauf si on prend Galates 5:5, peut-être on peut encore dire que ça traite un peu du retour de Christ. Mais à part cela, tous les livres du Nouveau Testament traitent du retour de Christ. Et Jésus en a parlé beaucoup, l'apôtre Paul en a parlé aussi beaucoup dans les Épîtres. Et même l'apôtre Paul fait, si vous lisez bien 1 Thessaloniciens 1, verset 9, il fait de l'attente du retour de Christ un aspect de la réelle conversion. Parce qu'il dit ceci, il dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. » En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Comme on dit, c'est un aspect du salut que d'attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. On trouve la même chose dans Hébreux où il dit « De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, il apparaîtra une seconde fois pour à ceux qui attendent, qui l'attendent pour leur salut. Le chrétien véritable, citoyen du ciel, doit être dans une attitude d'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre parlait du retour de Christ en disant « Nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Je me demande des fois si le chrétien il doit être vraiment écologique. Parce que ici, il n'attend pas, le chrétien, que le climat s'améliore ou que la planète, parce qu'on va éliminer les diesels, etc., s'améliore. Il attend carrément des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Okay. Tout le monde se bat pour la planète. Notre combat doit être d'attendre celui qui a promis des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et je crois que c'est important. Le citoyen du ciel se distingue, genre de cela, par le type de combat qu'il mène hein, aussi, et donc par son attente. Notre attente n'est pas écologique. Je ne dis pas qu'il faut faire des bêtises écologiquement, mais je dis que ce n'est pas là notre attente. Notre attente, elle est en Christ, d'attendre Christ, qui a promis de revenir, de nous transformer, dit l'apôtre Paul ici, de changer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Donc la consommation finale du salut, la rédemption de notre corps, comme dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 8, verset 23. Et puis, il attend donc ce que Christ a promis, c'est ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Donc le peuple de Dieu est décrit comme un peuple qui attend, mais un peuple qui attend comment ? Ici. Ainsi, on regarde bien le mot qui est utilisé ici pour attendre, c'est attendre comme si la chose était imminente. On peut attendre quelque chose et puis on sait, hein, parfois comme ma femme attend, des fois que je fasse une réparation, elle attend, mais c'est pas dans quelle année ça va se faire. Hein? On peut attendre comme ça des fois. Mais on peut attendre d'une autre manière. Il y a des gens qui, quand vous attendez le train par exemple, hein, je vois des gens sur le quai de gare, on se place déjà. On sait où va arriver la porte, donc on se case pour être en face de la porte. Et puis, on est sur le bord du quai, et puis on est tout le temps comme ça. Toutes les 5 secondes, on sait qu'il va arriver, mais on guette, et une fois qu'on voit le train arriver là-bas, ça y est. Et c'est à peu près la même chose. Hein. On doit être dans une attente où on guette l'arrivée, ici. Et c'est ce que Jésus disait dans Luc chapitre 12 et au verset 36, il dit « Soyez semblables à des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir. Hein? Quand on attend nos enfants, enfin, on a un fils qui arrive à 3h du matin, on va dire, mais quand on attend, on est là, déjà quand on a une voiture qui arrive, on regarde si c'est pas ça, etc. Et on est prêt, on veut pas être trouvé endormi lorsque le serviteur doit pas être trouvé endormi lorsque le maître arrive, il doit être prêt pour lui ouvrir quand il arrive. Et Jésus dit, c'est de cette manière-là que le croyant aussi doit attendre Christ. L'attente du croyant n'est pas donc une attente passive, mais c'est une attente active. Il espère cette chose. Et Pierre dit même qu'il doit même hâter hein, le retour de Christ. Mais cette attente est une attente durant laquelle il va chercher à mener une vie conforme à cette attente de Christ. Hein. C'est-à-dire l'attente est une motivation pour vivre aussi une vie particulière. Et la Bible nous le dit, celui qui attend Christ doit vivre pieusement. Celui qui attend Christ doit vivre pieusement. Tite chapitre 2, verset 11-13, l'apôtre Paul dit, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans le présent siècle selon la sagesse, la justice et la piété, et dit tout cela en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » C'est-à-dire, autrement dit, quand on attend Christ, on n'attend pas les bras croisés. On attend en menant une vie sainte. On attend en menant une vie sainte. Celui qui attend vraiment, l'apôtre Jean le dit, il se purifie comme Christ est pur. Si vous avez l'espérance que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté, et puis que ben, quand Christ reviendra, ça le sera, et celui qui a cette espérance-là, il vit d'une manière particulière. Autrement dit, ici, le citoyen du ciel donc, se distingue vraiment par son attente active, c'est une attente pendant laquelle il va œuvrer à sa propre sanctification. Je vous lis quelques versets de l'apôtre Pierre. Il dit ceci, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Ça veut dire, on ne sait pas. Donc il faut être prêt. « En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Puisse donc toutes ces choses, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, pardon, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous, dit, nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Et donc, vous voyez toute cette section, 2 Pierre 3, versets 10 à 14, où Pierre parle vraiment du fait d'attendre Christ. Il dit du fait que les choses terrestres vont disparaître. Il dit, si on croit cela, eh bien, on doit vivre. Et si on attend vraiment le nouveau ciel, la nouvelle terre, on attend que Christ revienne, eh bien, on doit s'appliquer même à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. On doit mener une vie sainte. Et donc, l'attente du retour de Christ ne doit pas nous laisser stériles, mais au contraire, doit nous laisser vraiment actifs dans la recherche de la sainteté. Je terminerai avec quelques points quand même d'application ici. La réalité de ce que nous sommes en tant que croyants doit formater notre vision du monde. On ne doit pas nous laisser guider par ce qu'on voit aux informations. C'est pas ça la réalité du monde. C'est la réalité présente peut-être, mais notre perspective, notre lecture du monde doit être formatée par la réalité de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes des citoyens des cieux, avec des droits, des privilèges spécifiques et des responsabilités spécifiques. Et en tant qu'enfants de Dieu, c'est ainsi que l'on doit vivre. Ce que nous sommes doit impacter comment nous vivons, comment nous comprenons les choses. Ce que nous sommes en Christ, bien entendu. L'apôtre Paul, lorsqu'il voulait régler les problèmes à l'église de Corinthe, rappelez-vous qu'est-ce qu'il disait ? Ne savez-vous pas que vous êtes ? Il rappelait souvent ce qu'ils sont pour venir impacter ce qu'ils doivent faire dans la vie pratique. Et il en est pareil pour notre vision des choses. Nous devons regarder en considérant la réalité de notre appartenance à Christ. La réalité de notre citoyenneté céleste de chrétien doit vraiment formater notre vision du monde. Et c'est ce que Paul dit ici quand il dit « Mais nous sommes citoyens des cieux, nous devons regarder les choses d'une manière particulière. » Deuxièmement, chers frères et sœurs, nous sommes plus influençables que nous ne voulons l'admettre. Nous sommes plus influençables que nous ne voulons l'admettre. Il est donc important de bien choisir nos cercles d'influence. On se croit parfois original. Et moi, je suis comme je suis, c'est moi. Je veux être moi. Je ne veux pas être Paul, je ne veux pas être un autre, je veux être moi. Parce que, voilà, je suis original. Mais c'est pas possible, c'est pas vrai. En réalité, l'homme est extrêmement influençable. Extrêmement influençable. Vous et moi, nous sommes extrêmement influençables. J'ai découvert récemment qu'avec les réseaux sociaux, il y a un nouveau métier qui est apparu. Ça s'appelle influenceur. Alors, je n'étais pas au courant de ça, j'ai vu ça la semaine dernière. Il y a des personnes qui ont le réseau d'amis sur Internet. Alors les grandes marques parfois les utilisent pour pouvoir porter leurs vêtements, leurs chaussures, etc. Faire une photo, envoyer la photo à tout leur réseau. Et les influencer pour qu'ils achètent le produit. Et il paraît que ça marche. Mais pourquoi ça marche ? Parce que nous sommes influençables. Parce que nous sommes influençables. Et ce n'est pas une mauvaise chose d'être influençable. C'est même une bonne chose. C'est parce qu'on est influençable que l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs ». et qu'il dit « Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Parce qu'il sait que si on porte les regards en un bon endroit, ça peut avoir une bonne influence dans notre vie chrétienne. Et donc, il est important de ne pas se croire hors de toute influence, c'est pas vrai ? Quand on regarde comment on s'habille, comment on se coiffe, comment voilà, hein, on a quelle marque il y a sur la basket, et pour se rendre compte que on est tous influençables. Et donc dans le domaine spirituel, les hommes sont aussi influençables. Et l'apôtre Paul pousse les Philippiens à choisir certains modèles plutôt que d'autres. Il les pousse à choisir ceux qui marchent selon le modèle qu'ils ont vu en lui, mais pas ceux qui se conduisent comme des ennemis de la croix du Christ. Ce que je mets sous mes yeux devient mon modèle. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous, parce que ce vers quoi je porte mes regards, ce que je considère, devient finalement mon modèle. Et hier soir, on lisait en famille ce verset du psaume 119, verset 37, qui dit, où il dit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaine et fais-moi vivre selon tes lois. Hein. » Et on a besoin que nos yeux soient détournés des choses parce que ce sur quoi on attarde nos regards bien devient aussi notre modèle. Et puis, je voudrais dire aussi que le chrétien doit chercher intentionnellement à être un bon modèle aussi pour les autres. Nous sommes influençables, mais nous devons aussi chercher, en tant qu'enfants de Dieu, à être un bon modèle pour les autres. De toute façon, nous sommes un modèle. Un bon ou un mauvais. C'est ce que Paul dit ici. Il dit, il y a des modèles à suivre, et puis il y a aussi des gens qui sont comme ça, il ne faut pas les suivre. Mais on est un modèle. Dès qu'on est regardé, on est un modèle. Il y a des gens qui pointent, des gens qui ont fait des choses pour dire, mais lui, il a fait ça. Je peux le faire. Mais lui, il est chrétien aussi comme toi, et lui, il pense comme ça. Mais moi, je peux penser comme lui. Vous voyez, donc on est quelque part... Hein, un modèle. Mais on doit chercher à être un bon modèle. Être un bon modèle est un commandement de l'Écriture. C'est un commandement de l'Écriture. Timothée, l'apôtre Paul dit à Timothée, 1 Timothée 4, 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. D'accord. Parfois on dit, mais je suis jeune, j'aimerais qu'on me respecte en tant que jeune. Paul dit, très bien, sois un modèle alors. Et ça marche. D'accord ? Tu vis en étant un modèle pour les autres. Tu donnes un bon exemple par ta conduite, par tes choix, par ta pureté, par ton amour de la parole de Dieu, par ton obéissance à la parole de Dieu. Tu te forces de vivre comme cela et tu seras un bon modèle aussi pour les autres. Un peu plus loin, il disait à Tite, exhorte les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. C'est-à-dire, c'est pas simplement le fait d'exhorter qui est quelque chose, de parler, de dire, mais c'est le fait de vivre d'une manière telle qu'on offre sa vie aussi en modèle aux autres. Les pasteurs doivent être des modèles pour l'Église. L'apôtre Pierre le dit, qu'on doit diriger le troupeau, non pas comme dominant sur eux, mais comme en étant des modèles du troupeau. Mais les parents aussi doivent être des modèles de piété pour leurs enfants, pour leurs propres enfants, les parents chrétiens. On peut désirer beaucoup de choses spirituelles pour nos enfants. On peut désirer une bonne église pour eux, des amis chrétiens, un bon lieu, un bon cadre de vie. Mais on doit être conscient que l'influence la plus forte qu'ils auront, c'est celle de notre piété. C'est ça qu'ils vont regarder. Vous pouvez donner tout ce que vous voulez, les mettre dans un institut biblique. Ce qui va compter, c'est l'influence qu'on aura imprimée sur leur vie depuis leur enfance ici. Et je disais ça à un frère dernièrement, je suis vraiment impressionné quand j'entends des vieux pasteurs de 60 ans, 70 ans prêcher et puis dire « Mon père me disait ceci ». C'est extraordinaire, je trouve ça extraordinaire. « Ma mère m'a enseigné ceci ». Chaque jour à la maison, nous avions le culte de famille. Mon père n'a pas voulu partir. Et je dis, oh, j'aimerais que mes enfants disent ça de moi quand ils ont 60 ans. Parce que, et ça montre que l'influence le plus important que l'on a, c'est l'influence que l'on a sur nos enfants. Et le parent doit chercher à être un modèle pour son enfant. C'est pas facile, mais on doit s'entretenir les uns les autres. Et ce que Paul dit ici, il dit, portez tous, soyez tous mes imitateurs. Il dit, ensemble, on doit s'encourager à être, hein, à observer de beaux modèles. On doit s'encourager en tant qu'église à dire, mais voilà, regarde un tel, ou regarde tel livre, voilà tel auteur, regarde l'apôtre Paul, sa vie, comment il a fait. On doit mutuellement s'encourager à suivre de bons modèles et aussi à être de bons modèles les uns pour les autres. Et puis, le christianisme n'est pas affaire de profession verbale, mais de marche dans l'obéissance. Ça, c'est très important. C'est pas la doctrine qui a fait l'ennemi de la croix ici. Dans ce texte-là, en tout cas, c'est la vie qui fait l'ennemi de la croix. La vie qui est vécue dans la désobéissance. Paul dit que ces gens-là sont des ennemis de la croix de Christ. Et si ça persiste, si c'est tout le temps leur attitude, il dit même que leur fin, c'est la perdition. Autrement dit, il n'y a pas d'assurance véritable simplement parce que je professe quelque chose. L'assurance vient avec la persévérance de la vie d'obéissance. Et c'est important de vivre une vie d'obéissance. Tout ce que je comprends comme commandement de Dieu, je dois m'y soumettre et y obéir. Ça, c'est important. Et puis, dernier point, ici, l'apôtre Paul compare les citoyens du ciel et les citoyens de la terre. Et pour ceux qui sont citoyens véritablement de la terre, qui n'ont jamais connu Christ, il exprime clairement la fin, c'est la perdition. Et donc ce qu'il dit ici, c'est aussi un appel à la repentance pour ceux qui vont lire cela. C'est un, il dit, j'en parle en pleurant. Il y a une douleur profonde quand il révèle l'attitude de ces personnes. Et je veux croire que dans ses pleurs, Paul a le désir de voir ces personnes se tourner vers Christ, afin qu'ils ne subissent pas ce châtiment éternel. Et aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais si vous êtes là et que vous ne connaissez pas Christ, mais vous pouvez venir à lui, parce que sinon, dit la Bible, la fin, c'est la perdition éternelle, le châtiment éternel. On a parlé tout à l'heure de la puissance de la croix. La croix reste toujours debout. Et aujourd'hui est encore le jour du salut. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à vivre une vie en tant que citoyens des cieux en 2019. Une vie dans laquelle nous allons chercher à avoir de bons modèles et être de bons modèles aussi pour les autres, pour nous aider à progresser dans notre vie chrétienne. Une vie dans laquelle nous allons considérer pleinement, nous allons méditer, nous allons adorer Dieu, le remercier, le louer pour cette citoyenneté qu'il nous donne. Une vie dans laquelle nos affections seront des affections célestes, des choses d'en haut. Nous allons nous impliquer dans des choses qui concernent Jésus-Christ, la vie chrétienne. Nous allons vivre d'une manière digne de notre Seigneur Jésus-Christ. Une vie dans laquelle nous allons aussi attendre vraiment le retour de Christ. Demandons au Seigneur de nous donner un droit, le chrétien doit désirer voir le Seigneur revenir. Que ce désir-là soit dans nos cœurs et que ce désir dans nos cœurs puisse nous motiver à vivre une véritable vie de sainteté. Notre objectif n'est pas un référendum d'initiative citoyenne, mais notre objectif est de vivre en tant que véritable citoyen des cieux et d'œuvrer pour que d'autres aussi le deviennent. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci encore de nous conduire dans ces instants par ton esprit afin d'appliquer ces choses à nos cœurs. Nous te prions que tu nous donnes de bonnes perspectives pour cette année qui vient. Nous ne savons pas quelle sera la longueur de notre vie tout au long de cette année, mais pour cette année, mais ce que nous voulons, c'est vivre comme ta parole nous le commande. Et nous sommes conscients que par nous-mêmes, nous n'avons pas cette capacité. Nous te prions, Père Céleste, d'agir en nous, de nous rendre obéissants à ta parole. Seigneur, de nous donner ce désir de vivre une vie sainte, dans une réelle attente de ton retour. Donne-nous de désirer marcher comme ceux qui t'aiment et te suivent marchent. Et même, donne-nous ce désir d'être de véritables imitateurs des vies de piété. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.